Bonsoir, on vous le raconte chaque semaine sur BFM Business, notamment dans le défi ETI. Comment faire grossir nos PME et les transformer en entreprises de taille intermédiaire pas assez nombreuses. Et pourtant, elles contribuent au tiers du PIB, ces ETI, au quart de l'emploi salarié en France. Les freins à la croissance, vous les connaissez tous, hein, les freins à la croissance de ces PME. Et le gouvernement va présenter d'ici quelques jours sa loi Pacte, une panoplie, un arsenal de mesures qui concernent aussi bien l'innovation, l'export, la transmission. Alors est-ce que ce sera la recette magique, un pacte gagnant pour l'entreprise? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, pacte comme plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Vous connaissez bien sûr l'acronyme défendu par l'un des membres du gouvernement. C'est Delphine Gény-Stéphane, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Elle est avec nous ce soir sur le plateau des décodeurs de l'écho. À ses côtés, un industriel, Yves Dubief, président de l'Union des industries textiles, industriel lui-même dans le département des Vosges. Olivier Millet, président de France Invest, le nouveau nom de l'AFIC, les investisseurs en capital, à la tête de quelques 100 milliards d'euros d'encours. Il est aussi le président d'Euraseo PME. Et Thierry Théa, de passage à Paris. C'est le fondateur de Filgels Group, hein, PDG de Negocia Ventures. Il est ambassadeur de la French Tech aux Philippines. Voilà donc pour parler entre autres de la loi Pacte. On va revenir dans un instant sur ce qui nous attend. Juste l'actualité, c'est le début ce matin pour 8 jours du référendum chez Air France sur fond de nouveaux préavis au mois de mai. Delphine Gény-Stéphane, le PDG d'Air France parle d'une situation destructrice pour la compagnie. Est-ce qu'Air France joue sa survie? Est-ce que Jean-Marc Janaillac, il a pris la bonne décision?
Bonsoir. Oui, cette situation à Air France, ça pose la question de la compétitivité de l'entreprise. Cette compétitivité qui est en question puisque ses niveaux de marge d'exploitation sont 2 fois plus faibles que celles de ses concurrents, en particulier de KLM. Il faut agir. Il est normal que cette discussion sur la performance ait lieu dans l'entreprise. Et aujourd'hui, on a une situation de blocage avec une solution et une proposition courageuse de la part du président qui doit amener à accélérer la solution sur Air France.
Vous parlez de décision courageuse, Delphine Gény-Stéphane, la décision de Jean-Marc Janaillac d'organiser ce référendum. Et si le référendum lui donne tort, il a laissé entendre qu'il partirait. Est-ce que c'est normal que l'avenir d'une grande compagnie mondiale aérienne soit dans les mains d'un syndicat, principalement le SNPL, qui depuis des mois, des années, fait la pluie et le beau temps selon les différentes directions?
L'avenir de l'entreprise, elle est dans les mains de ses salariés qui sont tous consultés et donc c'est à leur responsabilité qu'il est appelé et je suis assez convaincue qu'ils vont voir l'intérêt de la société.
L'usage du référendum dans l'entreprise, tiens Yves Dubief, à la tête de Lyon et des industries textiles, c'est une bonne chose ou pas?
Certainement, mais je pense que dans les PME que je connais, le référendum, il se fait presque au quotidien et en allant dans les bureaux et dans les usines et dans les ateliers et en voyant le sourire des gens.
Oui, donc il n'y a pas besoin dans les petites structures. Par contre, les grosses structures, pourquoi pas? En tout cas, vous nous disiez, Delphine Gény-Stéphane, qu'il a bien fait, en fait, d'organiser ce référendum. L'État a 17% du capital. L'État se manifeste ou pas, d'une façon ou d'une autre, sur ce dossier France?
L'État joue son rôle au conseil d'administration et est extrêmement vigilant à ce que la société rétablisse cette situation.
Olivier Millet, commentaire.
Comptons sur l'intelligence des salariés et elle est beaucoup plus importante qu'on ne le croit.
Alors, l'État dans le capital des entreprises, hein, juste qu'on comprenne bien, vous avez représenté l'État au conseil d'administration de plusieurs entreprises, parce qu'en fait, votre carrière, Delphine Gény-Stéphane, pour tous ceux qui ne vous connaissent pas bien, et en effet, c'est votre première intervention à la télé, on est content de vous avoir. Vous avez démarré dans la haute fonction publique, notamment la direction du Trésor, vous avez été au pôle de l'économie et des finances, avant de rejoindre le privé, puisque vous étiez vice-président de la stratégie de Saint-Gobain, avant de rejoindre à nouveau la sphère publique, en tant que membre du gouvernement, en tant que ministre. Je disais, vous avez représenté l'État au conseil d'administration de plusieurs entreprises dans l'aéronautique, dans l'armement, à la FDJ également. Est-ce que l'État doit rester dans ses boîtes comme Air France, chez Orange, 13%, Renault, 19%, PSA, 13%. Est-ce que l'État actionnaire, il est vraiment utile? Est-ce qu'il doit passer la main comme actionnaire? Est-ce qu'il doit s'occuper de ses affaires principalement et laisser ses entreprises, quelque part, se débrouiller seules, à votre avis?
Je pense que l'État actionnaire est utile et joue son rôle là où il est présent. Mais il est normal que des situations évoluent en fonction de l'intérêt commun, de l'intérêt des Français, des priorités d'intervention de l'État dans l'économie. Et donc, en effet, on doit se poser la question de où doit s'investir ce capital qui appartient à l'ensemble d'entre nous. Est-ce qu'il doit être dans telle entreprise ou dans une action, par exemple, celle de financer l'innovation de rupture.
Oui, plus stratégique. Oui, Thierry Théa, vous avez un regard, vous, venu de l'extérieur, ambassadeur de la French Tech aux Philippines, à la tête d'une société d'aéronautique, Philjet Group, ancien d'Airbus.
Oui, comme disait Madame la Ministre, c'est vrai que... il faut, pour moi, je pense qu'il faut se projeter sur le long terme. Quand je regarde les sociétés d'aéronautique en Asie, qui sont principalement détenues par des familles, par des entrepreneurs, AirAsia par Tony Fernandez, ou aux Philippines, Philippine Airlines, c'est le groupe Lushotan, et en fait, ils ont une vision très très long terme. Donc, la différence avec Air France, par exemple, où il y a eu pas mal de PDG différents qui sont passés. Je prenais l'avion il y a deux jours, je revenais de Grèce, et par exemple Transavia, ça marche super bien. Ils sont très contents, ils adorent leur société, et je pense que, comme disait
Olivier Millet
tout à l'heure, c'est les salariés, et comme disait Madame la Ministre, c'est vraiment les salariés qui font la société, et je pense que eux veulent se projettent sur le long terme. Donc il faut donner une vision très long terme à la société.
Oui, le rôle de l'État au cœur également aussi d'une réflexion. On recevait la semaine dernière ici même le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur la politique industrielle de la France, surtout nos fleurons industriels. Quand on prend l'exemple d'Alstom, donc dont la branche énergie a été achetée par General Electric il y a 4-5 ans à peu près, la branche transport fusionnée avec Siemens, Alcatel passé en giron de Nokia, les chantiers STX sous la coupe de Fincantieri. Alors certains vont crier, à tort ou à raison, peu importe, au dépeçage. Est-ce qu'il faut agir, à votre avis? Est-ce qu'il faut recentrer le rôle de l'État actionnaire dans des domaines prioritaire de souveraineté? Est-ce qu'il faut étendre la liste des secteurs à protéger?
En effet, l'État a des moyens d'intervention lorsqu'il considère que des sujets stratégiques nécessitent que des opérations capitalistiques soient contrôlées. Et ces moyens d'intervention, la mission parlementaire qui a eu lieu va permettre de les approfondir, de les rendre plus efficaces. Et en effet, est sur la table aujourd'hui l'idée d'élargir les secteurs d'application de cette réglementation.
Jusqu'où, par exemple, l'intelligence artificielle doit-elle être concernée? On était avec Jean-David Chamboredon, qui disait, mais pas du tout, l'intelligence artificielle, c'est transversal, justement. On ne va pas sanctuariser l'intelligence artificielle, c'est comme le numérique, c'est transversal.
Oui, bien évidemment, il faut un prisme qui intègre la dimension stratégique et l'importance pour la défense et la sécurité du pays. À partir de là, l'idée est d'élargir les sujets, y compris sur des sujets de technologie du type robotique, du type intelligence artificielle, sur l'espace, mais toujours avec ce prisme et cette proportionnalité qui est celle de l'objet stratégique de l'entreprise.
Voilà, jusqu'où doit aller l'intervention de l'État, jusqu'où doit protéger Olivier Millet à la tête de France Invest.
On a un super exemple. C'est la BPI, où on a fabriqué beaucoup d'intelligence collective entre de l'argent public et de l'argent privé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis maintenant un peu plus de 5 ans, la BPI a joué un rôle, on parlait de la French Tech, mais un rôle d'animation, de stimulation. Et je vois poindre des critiques sur la BPI. Je pense qu'il faut ouvrir les yeux. Sans la BPI, on n'aurait pas fait la French Tech. On était dans un moment où il n'y avait pas d'argent privé, et s'il n'y avait pas eu cette stimulation, après, on a la chance en plus avec Nicolas Dufourcq, donc je suis très fan, et je ne gère aucun capitaux de la BPI.
Nicolas Dufourcq qui était en début de semaine à la grande foire de Hanovre en Allemagne.
Un boulot absolument remarquable d'alliance et de co-construction entre une vision d'intérêt général et une vision qui peut être d'intérêt collectif. Le privé comprend l'intérêt collectif. C'est pas l'intérêt général, mais et donc l'alliance entre les capitaux publics, les capitaux privés, ça fonctionne.
C'est possible.
Et
c'est
possible. On a cet exemple. Et par exemple, en Allemagne, ils regardent la BPI en se disant, mais quel bel outil les Français ont fabriqué pour dynamiser l'innovation.
Thierry Théa.
Oui, je pense que effectivement, la BPI est un outil exceptionnel, je dirais. Aux Philippines, quand on a présenté la French Tech, qu'est-ce que c'était que la French Tech au gouvernement philippin, aux acteurs de l'écosystème digital philippin, ils ont copié. En fait, ils se sont dit, il faut qu'on crée un écosystème French Tech pareil. Donc, pour moi, effectivement, la BPI est quelque chose qui n'existe pas dans les autres pays. Et la France a vraiment c'est vraiment super de l'avoir.
On n'a pas à rougir de cette French Tech.
Non.
Surtout pas. Alors, Yves Dubien, président de l'Union des industries textiles, et à nouveau la ministre Delphine Gény-Stéphan.
Je veux simplement dire que par rapport à l'Allemagne, certes, ils n'ont pas la BPI, mais ils ont une action des lenders dans un certain nombre d'entreprises. Hein. Par exemple, Volkswagen avec le land de SE, mais aussi dans les ETI, et que toutes ces ETI et le succès des ETI allemandes est dû aussi à l'application des lenders dans le capital des entreprises.
Ça va nous amener tranquillement
l'administration des grandes entreprises.
À la loi Pacte, et comment est-ce qu'on peut faire grossir les PME? Allez-y, Delphine Gény-Stéphan.
Oui, je voulais également joindre ma voix à ceux qui reconnaissent l'impact très important qu'a la BPI aujourd'hui sur notre écosystème d'innovation, sur l'écosystème des PME et du financement des PME en France. J'étais moi-même à Hanovre où j'ai croisé Nicolas Guillaume.
En début de ce mot.
Et on essaye de faire en sorte que les PME industrielles françaises bénéficient d'un élan qui serait similaire à celui qui a été créé par cette belle marque de la French Tech. Et donc avec la BPI, nous allons porter la French Fab partout dans le monde, et en particulier à Hanovre où elle a eu beaucoup de succès.
La messe, c'est la grand messe des produits industriels en Allemagne. La French Fab, elle peut rivaliser. Quelle est l'image de nos produits à l'étranger? Est-ce qu'on doit rougir par rapport à la machine-outil allemande? Tiens, Thierry Théa.
Je dirais que non, au contraire, la France a une très bonne image à l'étranger, très représentée notamment grâce aux, par exemple, les conseillers du commerce extérieur dont je fais partie. Donc on travaille en collaboration avec le gouvernement, avec les ambassades, les conseillers économiques. Et je peux vous dire que ce sont des gens qui sont bénévoles, puisqu'on paye une cotisation pour être conseiller du commerce extérieur, et se donnent vraiment à fond pour représenter la France, pour redonner à la France. Et les Allemands n'ont pas, encore une fois, cet outil également.
Ouais, tiens, l'innovation, on en dit un mot, puisque ça sera aussi au cœur de cette loi Pacte, qui sera présentée quand exactement par votre ministre Bruno Le Maire
Dans quelques semaines. L'idée, c'est de la promulguer d'ici la fin de l'année.
D'ici la fin de l'année, avant les grandes vacances voter ensuite.
La promulguer.
Promulguer avant la fin de l'année, donc avant la fin de 2018. C'est vrai, en matière d'innovation, il y a déjà l'annonce de la création d'un fonds de 10 milliards d'euros en capital pour encourager l'innovation de rupture. C'est ce qu'avait fait donc Bruno Le Maire quand il l'avait présenté début février. Que faire d'autre? Tiens, on revient sur l'exemple France versus l'Allemagne. L'innovation et les procédures. 16 000 brevets déposés en France en 2016, presque 70 000 en Allemagne. Est-ce que la procédure de dépôt, elle ne pourrait pas être moins longue, moins coûteuse? Vous y pensez, Delphine Gény-Stéphan?
Alors, nous y pensons, nous allons changer cela. Et en fait, c'est le processus d'élaboration de la loi Pacte qui nous a permis de faire remonter ces idées du terrain. Donc, je vous rappelle que ce sont des chefs d'entreprise et des parlementaires qui ont organisé cette consultation préalable. Et dans cette consultation, sont remontées ces idées de simplifier et de flexibiliser le droit des brevets pour le rendre mieux adapté aux besoins des petites entreprises.
Parce que ce qu'on nous dit souvent, je ne sais pas si vous en êtes témoin ou pas, Olivier Mieff, vous à la tête de Euraseo PME, mais ce que les chefs d'entreprise disent, voilà, pour un brevet en bonne et due forme, on doit décrire l'invention, on doit prouver qu'il n'y a pas des inventions du même genre, montrer qu'il s'agit d'une activité inventive, il faut déposer des dossiers, tout ça prend du temps, un an, deux ans. Olivier Mieff, c'est une plaie. Il faut aller plus vite là-dessus. Il faut favoriser un peu plus l'innovation.
Il faut favoriser ça et tout le reste. Hein. Ce qui est un peu compliqué, c'est que il y a beaucoup de choses à faire en simultané. S'il y avait juste une petite chose à changer, je pense que on l'aurait tous fait, on l'aurait tous trouvé. On a pris beaucoup de retard dans la rénovation du pays et dans le travail collectif et multifactoriel. C'est-à-dire que le sujet brevet est fondamental,
mais il n'y a pas que ça.
Mais on peut probablement aligner 10 ou 100 sujets et la loi PAC sera passionnante à suivre. Et je pense qu'il faudra par avance ne pas la critiquer sur une espèce de logique d'inventaire à la Prévert, où on dira mais quelle est la cohérence de tout ça? La cohérence de tout ça, ça va être justement d'affronter la complexité en traitant tous ces sujets. Et moi j'ai eu la chance d'être participer, d'être auditionné, etc. Je pense que tous les acteurs économiques de bonne volonté, réformateurs, modernes, ayant une vision de l'intérêt général et de l'intérêt collectif, ont pu s'exprimer. Après, il y aura eu des arbitrages. Et il y aura probablement pas tout, mais je pense qu'on est dans la très très bonne voie pour que tous les sujets émergent, sachant que les sujets rebondissent les uns sur les autres. C'est-à-dire que toucher à un endroit a un impact sur un autre endroit. Et donc il faut vraiment s'y coller. Et moi je salue par avance le travail et je vous encourage à ne rien lâcher, justement pour que tous les sujets soient traités pour résoudre le maximum de problèmes.
Parmi tous les sujets à traiter, on va pas faire tout le catalogue, hein, là aussi catalogue contre catalogue, Yves Dubief à la tête de l'Union des industries textiles, qu'est-ce qui manque pour faire grossir les entreprises? Parce que les entreprises elles sont extrêmement nombreuses. L'an dernier, record de création, 600 000 sociétés, record depuis 2010. On a vu encore aujourd'hui Altares, les différentes entreprises qui reviennent à leur niveau d'avant-crise. Bon, la loi Pacte, elle va être présentée, vous serez à Angoulême d'ailleurs vendredi, demain je crois, Delphine, Jenny, Stéphane, dans une entreprise. Yves Dubief, qu'est-ce qui manque? Par exemple, donnez-moi un exemple.
Ce qu'il faut, c'est améliorer la compétitivité des entreprises. Oui. On a vu le volet attractivité avec le train de l'impôt sur les sociétés à 25%, oui. La fin de l'ISF, oui. Le remplacement par l'IFI, la flat tax, etc. Aujourd'hui, c'est la compétitivité des entreprises qui doit être améliorée pour leur permettre de prendre cet essor et d'aller vers l'industrie 4.0, que sont l'industrie et la digitalisation. Et cela, ça passe par une forte diminution des taxes sur la production.
Ah, les fameuses taxes à la production.
Taxes locales en particulier.
Ces taxes qui pullulent par dizaines. Hein. Alors, je sais pas, la taxe archéologique, la taxe locale d'équipement, les frais de dossier administratif.
Il y a assez petites taxes, mais il y a aussi les taxes plus importantes. Ouais. La C3S, la CFE, le foncier, la CVAE, qui sont en plusieurs milliards d'euros. Et qui pèse très fortement sur le résultat des entreprises.
Je crois que c'est 60 milliards de recettes fiscales par an qui pèsent en effet sur la production des entreprises. Et puis quand on ajoute... 72, vous me dites. À chaque fois, il y a une taxe égale un contrôle aussi, enfin tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Delphine, Jenny, Stéphane, justement, ces taxes à la production? Vous allez un petit peu nettoyer tout ça ou pas?
Alors c'est clairement un sujet identifié, puisque quand on se compare... Là encore, avec l'Allemagne, voilà, on a 3% du PIB qui est représenté par ces taxes. En Allemagne, c'est 1,5%, je crois. Donc on est dans un rapport qui est énorme.
Ils n'ont pas le même système. En Allemagne, ils commencent à payer des impôts quand il commence à y avoir des résultats. Là, pas encore de résultats. On commence déjà à aller chercher des
même sur le chiffre d'affaires.
Et oui, bien sûr. Oui. Oui.
Exactement. Donc quelque chose qui est pénalisant, qu'il faut étudier, qu'il faut analyser pour trouver les bonnes priorités. Le Premier ministre a confié à Yves Dubief et Jacques Lepape de l'inspection des finances cette mission d'analyse avec des propositions qui sont attendues pour le mois de mai, et c'est au sein du Conseil national de l'industrie qu'on va discuter de ces sujets pour mettre en avant et proposer les meilleures solutions.
Bon, alors ça c'est les taxes, donc vous nous dites là il va y avoir, on va faire un petit peu élaguer un petit peu dans tout ça.
Il faudra faire des choix compatibles avec nos engagements de trajectoire budgétaire.
Bien entendu. Il y a aussi une pesanteur aussi dans les entreprises, les fameux seuils fiscaux, seuils sociaux. Dites-moi un mot, Yves Dubief.
Ben, on espère beaucoup que dans la loi Pacte ou dans une autre loi, mais très très vite, il y ait un doublement des seuils, et en tout cas ceux de 50, de 20 et 50, et qu'on passe de 50 à 100. Parce que de dire... Quand vous êtes à 48 et quand vous passerez à 52 ou 53 pendant quelques années, il n'y aura pas d'effet. Non, c'est de dire le 50 passe à 100. Parce que ça, c'est un vrai frein à l'embauche et c'est un vrai frein à la croissance des entreprises.
Alors, on fait quoi? On passe de 20 à 50, de 50 à 100, Delphine, Jenny, Stéphane. La loi Pacte, qu'est-ce que vous prévoyez?
Alors, dans la loi Pacte, il y aura une simplification drastique des seuils, non seulement des seuils, mais aussi de leur mode de calcul, parce que aujourd'hui il y a quatre modes de calcul différents. Donc c'est un casse-tête pour les entreprises. C'est une source d'angoisse aussi pour les entrepreneurs qui doivent embaucher. Donc il y aura des éléments de simplification drastique et d'accompagnement des entrepreneurs pour passer ces seuils et pour embaucher.
Simplification, mais là les seuils vont passer de combien à combien? On peut le dire, on peut l'annoncer. Ou pas?
Pas encore.
Pas encore. Bon, très bien. Autre plaie, les délais de paiement aussi, ça, on en parle régulièrement dans le défi ETI. Pierre Pellouzet vient souvent nous voir, le médiateur des entreprises. Les délais de paiement, ça va mieux, il paraît? Où est-ce qu'on en est? Comment transformer l'essai? Comment la loi Pacte peut-être justement eh bien, accompagner ce mieux dans les délais de paiement? Qu'est-ce que vous prévoyez?
On ne prévoit pas de modifier les dispositions législatives sur les délais de paiement, puisqu'il y a eu des durcissements successifs au cours de tous les deux ans, en fait, hein, depuis la loi LME. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que le dispositif actuel soit très efficace, soit bien compris et donc s'accompagne de mesures de terrain et d'une prise de conscience de tous les acteurs. On travaille d'ailleurs avec toutes les fédérations d'employeurs et donc on est très attentif à ce que ça continue à s'améliorer.
Donc pas de renforcement des sanctions, non?
Les sanctions,
afficher haut et fort les noms des mauvais payeurs.
En effet, aujourd'hui, la publication est systématique sur les sanctions qui sont prises. Ces sanctions, à cause des dispositions législatives qui sont déjà dans la loi aujourd'hui, vont s'accentuer. En fait, ça va rentrer un peu plus dans les faits, parce qu'il faut de l'historique pour appliquer une sanction. Donc c'est pour ça qu'elle n'arrive que maintenant. Et en effet, elles seront aussi plus visibles. Aujourd'hui, elles sont affichées sur le site de la DGCCRF. Et ce qu'on veut faire, c'est vraiment les rendre plus visibles avec une communication plus marquée deux fois par an.
Des affiches dans les rues marquées Wanted. Non, je plaisante. Yves Dubief à la tête de l'UIT.
Je voudrais simplement dire qu'il y a un petit paradoxe, parce que quand on parle des moyens, des délais de paiement, on parle beaucoup France et France.
Oui.
Or, on veut des champions, on veut des ETI qui se développent à l'exportation, et à l'exportation, vous n'avez pas cette loi ne s'applique pas aux ventes à l'export. Et quand vous êtes une entreprise industrielle qui achète des matières premières en France et qui exporte 80% de son chiffre d'affaires en Italie, en Espagne, restons sur l'Europe, hein.
Oui, bien sûr.
En Italie, en Espagne et dans les pays germaniques, ils vont payer rapidement, mais avec un escompte conséquent, et les pays latins, ils vont payer de manière assez
décontractée
ou floue.
N'est-ce pas ?
Et donc, il faudrait, si on veut aller plus loin, c'est étendre au niveau européen cette loi sur les délais de paiement.
Vous allez en parler à vos homologues.
Oui, ça peut être un bon sujet aussi. C'est aussi un sujet à traiter dans l'accompagnement des PME à l'export. On parlait tout à l'heure de l'image de la France à l'étranger qui est bonne, qui est en train de se regonfler. Mais aujourd'hui, nos PME exportent trop peu par rapport aux PME allemandes. On a finalement peu de PME qui sont présentes à l'export. Et donc on veut les pousser, les accompagner et donc leur donner des outils. Et certains d'entre eux concernent le financement de leurs exports.
Quelles mesures? Allez-y Thierry Théa, pardon.
Non, tout simplement, c'est vrai que les PME aujourd'hui ne sont pas assez dimensionnées pour aller très très loin dans leur procédure.
Qu'est-ce qui leur manque? Comment aider les exportateurs français, notamment les PME? La mesure essentielle à vos yeux qu'il faudrait mettre dans la loi Pacte?
On parlait des diminutions des charges, forcément c'est ce qui pèse. Aujourd'hui, ils ont pas comme disait Yves tout à l'heure, ou vous-même, avant d'embaucher, en fait, il y a un coût qui est quasiment double, et donc du coup ils font vraiment attention. Et pour aller à l'export, il faut être dimensionné, accompagné, avoir de l'expérience et pouvoir envoyer des employés tout simplement, ou et trouver des relais pour trouver des clients. Et aujourd'hui, nous, quand on a des PME françaises qui viennent nous voir pour nous demander si on peut les aider, donc on accepte en tant que conseiller du commerce extérieur. On les accompagne, on leur ouvre des portes et ensuite elles reviennent pas parce que elles sont pas dimensionnées. Donc c'est ce qui leur manque aujourd'hui.
Olivier Millet, Euraseo PME. Qu'est-ce qui manque? La solution, la mesure à prendre.
de ça tourne toujours autour de l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est le lien entre les dirigeants et les moyens de changer de dimension. Alors il y a tout ce qui tire vers le bas, mais tout ce qui tire vers le haut, c'est aussi d'aller chercher des moyens financiers pour changer de dimension. Et pour moi, un des freins historiques et culturels, c'est le financement exclusivement par la dette. Donc on a financé la croissance économique française avec de la dette, et ça reste, et pas suffisamment, avec des fonds propres. Alors pour mettre des fonds propres, il faut faire rentrer des actionnaires, accepter de rentrer dans des systèmes de gouvernance plus modernes, etc. Mais le bénéfice, c'est quoi? C'est de permettre à des entreprises, non pas d'être dans une culture d'export, mais de mondialisation, qui n'a juste rien à voir. L'export, c'est je fabrique des objets extraordinaires en France et je daigne les vendre à des papous à l'autre bout du monde. Alors, c'est vrai quand ça s'appelle du cognac, mais comment se sont développées les entreprises du CAC 40 en achetant des sociétés à l'étranger? Et les PME aujourd'hui doivent changer de dimension en faisant des opérations de croissance externe à l'international. Une fois que j'ai dit ça, c'est très compliqué, c'est très dangereux, et ça se finance pas avec du crédit. Ça se finance avec du risque en capital. Et donc, aller chercher du capital pour faire votre shopping et votre changement de dimension, parce que ce qu'il faut pour vendre à l'autre bout du monde, c'est des gens locaux, des gens de la culture locale pour que des choses se passent. Et on peut faire une soirée sur le sujet, et je vous raconterai plein d'histoires d'entreprises de moins de 50 millions d'euros, de moins de 100 millions d'euros. J'ai un de mes associés qui rentre d'Inde, où on a fait une acquisition pour une société qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 18 mois de boulot, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en Inde.
Et maintenant, il a installé
là-bas. On a reconstruit une nouvelle usine en Inde, etc. Et donc, entre guillemets, c'est possible. Mais ça n'est possible qu'en alliance complète entre ce chef d'entreprise exceptionnel et tout ce qui va l'aider, du financement à la culture, à l'administration, voilà, au fisc, etc.
Juste un mot sur le financement, puis on reviendra dans un instant. On s'intéressera aussi au rôle de l'entreprise, hein, ce que l'entreprise doit faire, du profit ou...
Est-ce que je peux dire un mot sur l'internationalisation des entreprises?
Delphine, j'ai dit Stéphane.
Sur l'internationalisation des entreprises, je voulais parler d'un autre outil intéressant et très 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 fort qu'on a en France, qui est Business France, donc qui était à Hanovre, qui accompagne les PME avec des événements internationaux, et cette volonté qu'on a de rassembler les énergies, de chasser en meute, de créer des dynamiques qui soient tirées par des exportateurs, des grands groupes, des ETI, qui vont entraîner avec eux ces grappes de PME aussi sur les marchés.
Moi, j'aimerais qu'on ait un indicateur de combien d'entreprises parce qu'on a un problème quand on achète des entreprises françaises. Mais là, on est juste en train de dire qu'il faut que des entreprises françaises achètent des entreprises chez les voisins. Donc, si on pouvait arriver à mesurer un outil statistique combien nos entreprises françaises ont acheté d'entreprises à l'étranger, je suis sûr que on prendrait conscience que c'est là la voie, parce que une fois que j'ai acheté l'entreprise, ah oui, c'est des problèmes, mais c'est, j'ai acheté ma petite boîte de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en Allemagne, mais j'ai des Allemands, et donc je vais être obligé, moi français, de devenir franco-allemand,
m'adapter quelque
et de m'adapter, et je serai bien meilleur localement en Allemagne, parce que qu'on le veuille ou non, et en particulier en Europe, ça reste un casse-tête terrible d'être d'un pays et de faire du commerce et du développement dans un autre pays.
On continue dans un instant avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Alors comment s'y prendre pour aller doper, réveiller notre tissu de PME, et notamment eh bien les accompagner à l'export? Et la réflexion d'Olivier Millet il y a un instant à la tête de France Invest était tout à fait juste, bien entendu. Tout ça, ça prend du temps. Tout ça, ça coûte de...
Non mais arrêtons de penser qu'il faut réveiller la France. La France est réveillée.
Non, mais...
La France, elle roule. Les PME, il se passe beaucoup plus de choses.
Mais on le dit en permanence ici même, bien entendu. Mais il faut quand même accélérer. C'est pas pour rien
que
la loi Pacte va être présentée par le gouvernement. Et on est avec l'un des membres du gouvernement, Delphine Gény-Stéphane, qui est la secrétaire d'État auprès de Bruno Le Maire, donc à Bercy. Oui, le financement. Est-ce que vous avez pensé à ce volet? Comment orienter davantage l'épargne des ménages vers les entreprises. Je regardais le rapport qui a été remis au gouvernement par Jean-Noël Barrot, qui est député des Yvelines de La République En Marche, par Alice Zaguri, donc fondatrice de The Family. 11% seulement de l'épargne des ménages sont alloués au financement des fonds propres des entreprises. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus?
11%, c'est en effet très peu.
Très peu.
Et c'est un paradoxe parce que notre pays est le lieu où l'épargne des ménages est extrêmement élevée par rapport à d'autres. Et donc, le fait que cette épargne aille peu finalement vers les entreprises et vers le risque, c'est quelque chose qui n'est pas efficace pour l'économie. Donc, toute la logique de la réforme fiscale est extrêmement fondamentale, hein, qui a été mise en œuvre l'année dernière, c'est de libérer cet appétit pour le risque, pour le rendement, et d'aller davantage vers les entreprises. Donc c'est bien le but. Et dans la loi Pacte, on travaillera sur des volets nouveaux qui sont l'épargne retraite, donc la simplification des instruments et des supports d'épargne retraite, et l'assurance vie.
Les PME, elles sont souvent, et ces ETI, on le voit donc beaucoup, en région. Voilà, les grosses ETI, elles sont en région. Question aussi, c'est comment les développer aussi, attirer des talents. Vous êtes dans les Vosges, vous par exemple, Yves Dubieff, à la tête de l'Union des industries textiles. Comment est-ce qu'on attire des ingénieurs dans les ETI? Comment est-ce qu'on les fait venir? Comment est-ce qu'on développe ces PME dans des zones aussi où les notions de haut débit, de 4G sont parfois éloignées? Racontez-nous.
Il y a l'attractivité des métiers, il y a l'attractivité des territoires. Ouais. Effectivement, quand on est dans les Vosges, qui est un département historiquement industriel, qui est aujourd'hui qualifié, à mon avis, à tort, plutôt de ruralité, c'est pas quelque chose de facile. Parce qu'on n'est pas dans les métropoles, on est assez loin des centres de recherche, des centres universitaires, etc. Donc il faut donner envie, faire envie, il faut être attrayant et séduisant, en démontrant que on est dans un secteur qui aujourd'hui n'est pas le secteur textile traditionnel, qui est l'équipement de la personne, l'équipement de la maison, mais que plus de 50% aujourd'hui sont dans les textiles techniques ou les textiles à vocation industrielle, que c'est un secteur qui est résilient, que cette image un peu vieillotte du déclin du textile, oui, c'est fini.
Bien sûr.
C'est l'année dernière, pour la première fois depuis 40 ans, nous avons augmenté nos effectifs dans le secteur, nous en sommes pas peu fiers, et que tout cela passe par l'innovation et par l'accompagnement que nous avons eu depuis 5 ans dans le cadre, avec l'appui de BPI bien sûr, mais dans le cadre de la Nouvelle France Industrielle et du plan stratégique du textile, qui a permis à 7 projets collaboratifs d'être mis en place et de partir sur ce textile de demain qui est quasiment de demain, mais de demain vendredi.
La fracture numérique, Delphine, Jenny, Stéphane, où est-ce qu'on en est de l'accord signé, proposé, conclu un week-end par tous les opérateurs téléphoniques, où est-ce qu'on en est?
Le volet du très haut débit, oui, fixe, donc là je crois que c'est très important pour les entreprises sur les territoires d'avoir ce déploiement de la fibre et du très haut débit au plus près des activités économiques, même si elles sont un petit peu loin des métropoles.
Où est-ce qu'on en est?
Et donc on a en décembre établi le principe de ces engagements des opérateurs pour déployer plus rapidement, pour avoir du bon débit partout sur le territoire en 2020 et du très bon débit en 2022. Donc cet accord, il est en route, il a été confirmé et mis en musique par des courriers des opérateurs qui aujourd'hui sont soumis à l'ARCEP pour faire valider ces engagements qui deviennent contraignants et opposables.
Le numérique, un mot, puisque c'est le coup d'envoi demain jusqu'au 1er mai du Black Friday à la française, avec des e-commerçants, il y a Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce, Showroom Privé. C'est une opération utile ou pas à vos yeux? On voit la France en route vers les 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires donc l'an prochain, mais on est encore un petit peu en retard par rapport à d'autres pays sur la part du e-commerce dans le commerce de détail.
Alors le Black Friday de l'automne de l'an dernier avait eu un impact relativement favorable.
C'est la première fois.
Et donc les acteurs avaient la volonté de lancer quelque chose de spécifique au printemps. C'est une initiative privée. La volonté, c'est des promotions, ce ne sont pas des soldes,
oui, oui.
C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de vendre à perte.
Oui.
Il faut le rappeler. Le souhait, c'est que ce soit ouvert à tous. On est évidemment, on espère que ça va booster, dynamiser l'activité commerciale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le e-commerce et le commerce physique ne s'opposent plus autant que ce qu'on peut le croire, puisque
n'empêche, il y a eu un rapport qui a été remis par Monsieur Marcon à à votre collègue Jacques Mézard, donc le ministre de la Cohésion des Territoires, qui préconise de modifier la fiscalité pour établir un équilibre entre ces deux commerces. Vous allez fiscaliser un peu plus le e-commerce ?
Ce qu'on va regarder, c'est en effet s'il existe des distorsions entre les formes de commerce, et on va traiter ces distorsions fiscales. Donc un rapport a été demandé, et on pourra d'ici l'été regarder les solutions qu'il préconise.
Donc pourquoi pas donc des taxes sur le e-commerce, c'est pas exclu a priori.
En tout cas, une refonte du système des taxes qui s'appliquent sur le commerce.
Bon, très bien. J'accueille Laurent Froissart. Bonjour.
Bonjour.
Laurent Froissart, vous êtes chef d'entreprise, dirigeant de Becom, c'est du matériel de publicité.
Oui.
Et vous avez passé votre journée avec la ministre Delphine Gény-Stéphann dans le cadre d'une opération qui s'appelle Duodet. Hein, Duodet, donc le Duodet, c'est une personne qui souffre de handicap et qui suit donc eh bien un ministre, le chef du gouvernement, enfin des personnalités. Qu'est-ce que c'est que cette opération Duodet? Est-ce qu'on peut dire de quoi vous souffrez? De quel handicap vous souffrez?
Moi, je souffre d'une cardiomyopathie dilatée. C'est une maladie du cœur.
C'est ce qu'on appelle donc un handicap invisible, ce qui ne vous empêche pas, en tout cas, d'être chef d'entreprise avec quelques réserves. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle journée vous avez passé tous les deux, alors?
Duodet, c'est une très belle initiative qui permet de mettre en relation une personne valide avec une personne en situation de handicap. Et le gouvernement, enfin les membres du gouvernement ont joué le jeu. Donc ça, c'est un point important à souligner, et j'ai pu partager une partie de l'après-midi avec Madame le Ministre.
Et Madame la Ministre, qu'est-ce qu'elle a pensé de cette expérience, donc avec une personne qui souffre de handicap? Pardon, je ouvre une parenthèse. Des gens comme vous, il y en a des dizaines, des centaines de milliers. Enfin, en tout cas,
En France, il y a 2 700 000 personnes en situation de handicap, 80% handicap non visible.
Ouais.
Et dans mon cas, je suis chef d'entreprise. Voilà, donc j'ai une entreprise avec une dizaine de personnes, et on est 75 000 personnes dans cette situation-là, de référencés, et on estime qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes dans cette situation, chef d'entreprise,
oui.
En tant que chef d'entreprise.
Delphine Gény-Stéphann.
Donc, pour moi, ce qui est important, c'est en effet de montrer l'activité professionnelle d'une personne en situation de handicap, qui peut être non visible, qui peut être totalement non affectée, en fait, finalement, par son handicap, qui est en situation de chef d'entreprise, de prendre des risques, d'investir, d'embaucher. Donc je pense que c'est extrêmement important de montrer ces histoires-là aussi.
Est-ce qu'il vous a pas empêché parfois de souscrire, signer des crédits?
Oui, alors ça fait partie des freins, hein. Entre autres, c'est l'accès à l'emprunt. Pour d'autres personnes qui ont d'autres formes de handicap, c'est l'accès justement à la partie administrative qui est un peu plus compliquée.
Vous avez l'impression que le handicap, c'est la priorité dans les entreprises? Tiens, Yves Dubieff, à la tête de l'Union des industries textiles. Bon, en même temps, on va peut-être dire aussi, ouais, il y a trop de contraintes réglementaires sur le handicap dans l'entreprise. On revient aussi sur les questions de réglementation.
C'est un des éléments, mais aujourd'hui, on est dans un marché en tension pour le recrutement. Et donc, c'est aussi une façon de s'ouvrir à d'autres formes et d'autres individus, et qu'on regarde, on embauche des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des gens formés, pas formés, des gens qui ont un handicap visible, invisible, ou qui sont en pleine forme.
Olivier Millet, pas de tabou. À l'aide de France Invest.
C'est dans un des éléments nouveaux de responsabilité de l'entreprise. Il y en a de plus en plus, mais celui-là en est un. C'est-à-dire que une entreprise moderne, quelle que soit sa taille, qui ne comprendrait pas que ce sujet existe, perdra progressivement son attractivité. Vous parliez, monsieur, tout à l'heure de l'attractivité de l'entreprise. Il y a l'entreprise qui ne comprend rien à ces sujets-là, et l'entreprise qui comprend ce sujet du handicap et qui le gère, et ça en fait tout de suite une entreprise plus sympathique pour ses salariés et plus sympathique pour ses clients et son environnement.
Thierry Théor.
Oui, je dirais que en tout cas en France, on reconnaît la solidarité, et je pense que c'est très important. On voit beaucoup au Cambodge.
Est-ce qu'on le fait suffisamment dans l'entreprise?
Dans l'entreprise, je pense pas assez. Mais par exemple, une petite anecdote, que ce soit aux Philippines ou au Cambodge, je vois beaucoup d'entreprises françaises qui viennent aider des ONG locales pour aider des personnes défavorisées qui ont des handicaps, et donc en fait, je pense que ça existe. Il faut simplement, on peut aussi le faire près de chez soi. Donc je trouve que c'est une super initiative.
Et ça pose la question, il a parfaitement raison, Olivier Millet, justement, eh bien, sur le rôle de l'entreprise. On se pose beaucoup de questions en ce moment. Il y a des rapports, hein, le rapport Sénarnota, la loi Pacte aussi, vous en parlez, donc qui se penche sur cette question, le rôle social et environnemental de l'entreprise. Antoine Frérot, le président de l'Institut de l'entreprise, qui dit l'entreprise est d'intérêt général et pas seulement de l'intérêt de quelques-uns. La vision, le rôle de l'entreprise, ça va être écrit au cœur de la loi PAC.
En effet, au cœur de la loi PAC, il y aura la définition d'un rôle de l'entreprise qui est en ligne avec les attentes qu'on perçoit aujourd'hui, et la consultation très large qu'on a faite a bien montré qu'il y a une attente, qu'il y a une nouvelle vision qui doit se dégager avec une entreprise qui place au centre l'intérêt collectif, donc avec un intérêt qui ne se limite pas au fait de générer du profit, mais qui tienne compte du contexte et des enjeux environnementaux et sociaux. Donc ça, c'est une forte attente qu'on va inscrire dans la loi. Et on va aller plus loin, on va permettre à certaines entreprises d'aller plus loin en se dotant dans leur statut d'une mission spécifique.
Laurent Froissart, le partenaire donc de Delphine Jenin, Stéphane pour une journée, allez-y, le rôle de l'entreprise. Est-ce que une bonne fois pour toutes, il faut l'écrire clairement?
Il faut l'écrire. Enfin, il y a déjà beaucoup de choses qui sont écrites, beaucoup de choses à faire. Souvent, les entreprises préfèrent payer leurs taxes plutôt que faire appel à soit à des entreprises spécialisées ou à embaucher des personnes
handicapées.
En situation de handicap.
Nous, donc ça reste encore tabou malgré tout.
Ça reste tabou.
C'est ce qui me semble.
Voilà.
Ouais.
Mais moi aujourd'hui, je représente une association qui s'appelle HUP, qui permet à des entrepreneurs en situation de handicap de créer leur entreprise. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les droits des travailleurs indépendants en situation de handicap sont les mêmes qu'un salarié handicapé lorsqu'une entreprise fait appel à ses services. Donc au niveau financier, taxe handicap, elle bénéficie des mêmes droits.
Yves Dubief.
Nous, dans le textile, on est une industrie de territoire, et souvent dans des territoires, comme je l'ai dit tout à l'heure, loin des métropoles. Et donc ce rôle, qui n'est pas que de faire du profit, mais qui est de s'occuper du social, de l'environnemental, d'accueillir des gens en situation de handicap, c'est encore plus fort sur un territoire où souvent, ou dans un village, ou dans un bourg, où il n'y a qu'une ou deux industries et quelques petits commerces qui vivent de cette activité économique qui est générée par ces industries, en particulier textiles.
Olivier Millet, Euraseo PME.
Pour moi, il en va de la valeur des entreprises à moyen terme. Et comme mon métier, c'est l'évolution de la valeur des entreprises, puisque j'ai une responsabilité fiduciaire, on me confie des capitaux, on me confie de l'épargne française, internationale, pour l'investir dans l'économie réelle, avec comme fonction économique d'en rendre plus. Si on accepte l'idée que de plus en plus ces sujets-là sont des points de sensibilité de la société au sens large, à partir du moment où on est dans le temps long, et nous sommes dans le temps long puisqu'on est dans une pensée d'investissement à 5, 10, 15 ans, si ces sujets auront de l'impact sur la valeur des entreprises. Donc les fonds d'investissement que je représente sont extrêmement engagés sur tous les sujets extra-financiers et donc sur la compréhension de l'adaptation de l'entreprise au monde qui bouge, et le monde bouge avec des sujets environnementaux, un projet social, des gouvernances attractives. Si je veux recruter des salariés qui vont avoir envie de se défoncer sur un projet collectif, il faut que le chef d'entreprise soit un type formidable, une femme formidable, mais qu'il y ait un système de gouvernance attractif qui est le garant de la pérennité de cette entreprise. Et c'est un sujet de valeur à l'arrivée. Donc on est totalement en ligne avec cette évolution. Après, je pense que la façon dont on comprend que les choses sont en train de s'écrire laissera de la liberté. Et il faut que si on veut avoir une mission, on l'écrive. Et si on veut rester un peu en retrait, ce soit aussi possible.
Un pacte gagnant pour l'entreprise, vous dites tous oui, c'est ça. On se quitte, on se dit au revoir. Merci Thierry Théa, fondateur de Philjets Group, PDG de Negocia Ventures, ambassadeur de la French Tech. aux Philippines, au Cambodge, je crois également. Olivier Millet, président de France Invest, donc le nouveau nom de l'AFIC, est président de Euraseo PME. Merci Laurent Froissart, dirigeant de Becom, matériel de publicité, qui a passé sa journée donc à Bercy, il paraît que c'est bien là-bas. Yves Dubièvre, président de l'Union des industries textiles, et puis Delphine Jenny Stéphane, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie Bruno Le Maire. C'est fini pour les décodeurs de l'écho, on revient très très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.